Sushi. Sansac FM.
De la loi du 15 mars 1850, Victor Hugo proclamait « Je la repousse, parce qu'elle confisque l'enseignement, parce qu'elle diminue mon pays. Vous en voulez à la raison humaine. » Le ministre à qui étaient destinés ces mots était Alfred de Falloux, un angevin du Bourdiré, près de Segré. Ce comte de Falloux et sa loi seront décriés et alimenteront les débats autour de la question religieuse dans l'enseignement jusque sous Mitterrand. Mais cet homme politique oublié, auquel certains trouvaient, je cite, « un fumet de sacristie, désagréable à sentir », était avant tout une âme charitable et a accompagné les transformations économiques de son temps et de son Anjou natal. Le souvenir national d'Alfred de Falloux contraste avec les mémoires locales du Segréen. L'homme et ses idées politiques sont aussi le reflet d'une période complexe de transition où le monde ancien et le monde nouveau se confrontent au beau milieu du 19e siècle. Qui était le comte de Falloux? Pourquoi son nom a marqué les mémoires? Et quelle influence a-t-il eu en Anjou? Voilà ce que vous propose d'apprendre cette chronique de Clic-Clac-Topette avec un premier survol du parcours du comte, puis un échange avec Jean Luard, l'auteur d'un ouvrage sur Alfred de Falloux et le Haut-Anjou. Bonne écoute! Alfred de Falloux, né en 1811 à Angers, est issu d'une famille bourgeoise angevine qui a été anoblie en 1830. Des rumeurs ont prétendu qu'Alfred était un enfant illégitime du roi Louis XVI, parce que sa mère était née au château de Versailles. Sauf que ce roi en question est mort 20 ans avant la naissance du comte. En tout cas, Falloux défend fermement le retour d'un Bourbon à la tête de l'État. À savoir que la place Falloux à Angers rend hommage à Michel Falloux, un maire de la ville et parent du comte. C'est avec sa loi de 1850 que Falloux exprime au mieux ses idées politiques en tant que ministre de l'instruction et des cultes, et permet aux institutions religieuses de s'immiscer pleinement dans l'éducation. Les terribles journées de juin 1848, aux 5700 morts, ont apeuré les classes conservatrices provinciales qui ont accusé l'école républicaine d'avoir perverti la jeunesse du pays. L'abrogation complète de la loi ne sera faite qu'en l'an 2000. Malade, il quitte la fonction exécutive avant que sa loi ne soit votée. Au moment du coup d'état de Napoléon III, il se retire définitivement au Bourdiré et commence à tisser un lien intarissable avec la population segréenne. Je suis allé à la rencontre de Jean Luard, un jeune segréen passionnant et passionné qui rapproche les gens avec leur histoire locale. Il propose avec l'Office de tourisme de Segré des visites guidées et instructives de la petite ville angevine. Mais il est aussi l'auteur d'un très précis ouvrage qui dépeint le comte de Falloux du Bourdiré et son rapport avec le Segréen. Jean, comment est venue cette idée d'un tel ouvrage à propos d'une personnalité politique un peu oubliée de la Seconde République?
En 2016, le château du Bourdiré, qui a été construit par le comte de Falloux, a été racheté par deux Américains et a commencé sa restauration superbe, vraiment à l'identique. Moi, qui faisais partie de l'association de patrimoine de cette petite commune du Bourdiré à côté de Segré, on était très content que ce château puisse revivre. Et surtout, j'avais envie, moi, comme je faisais des études d'histoire de l'art, de me pencher sur l'histoire du comte de Falloux, qui était assez méconnu à l'époque.
Les Falloux, c'était d'abord une famille de bourgeois qui a ensuite été anoblie. Comment se sont-ils retrouvés au Bourdiré?
Le père du comte de Falloux, Guillaume de Falloux, était très jeune quand la Révolution a éclaté. Il s'est enfui à l'étranger et puis il a participé à quelques combats pour restaurer le roi sur le trône. Et puis quand il est revenu, il s'est réfugié un peu chez son oncle dans le Baugeois. Et c'est là qu'il a rencontré sa future femme qui, elle aussi, était réfugiée dans le Baugeois, chez son oncle également. C'était Mademoiselle de Fitte de Soucy, qui, elle, était née à la cour de Versailles. Donc ce couple se marie, partage son existence entre Angers, où ils ont une petite maison à côté de la cathédrale Saint-Maurice, et quelques terres agricoles, où il y a des fermes et puis une gentilhommière au Bourdiret, donc ça s'appelait la Mabouillère.
Alfred de Falloux, c'était un légitimiste convaincu jusqu'à sa mort. Il a pourtant été ministre de la République. Comment un enfant du pays s'est-il retrouvé à cette haute fonction dans un régime politique qu'il ne défendait pas ?
Il a été élu en fait en 1846, donc durant la monarchie de Juillet sous Louis-Philippe. Donc toute cette partie des royalistes légitimistes était complètement opposée à Louis-Philippe, qui était lui la figure de l'orléanisme. Il était désigné comme l'usurpateur puisqu'il avait pris le trône de Charles X, qui était lui le Bourbon. Donc Falloux était totalement contre Louis-Philippe, mais ensuite, effectivement, il est devenu ministre de la République, alors c'est assez surprenant pour un royaliste, mais le parti royaliste avait aidé Louis-Napoléon Bonaparte à accéder à la présidence de la République. Donc en échange, bien sûr, Napoléon avait donné quelques sièges à ce parti. Donc Falloux avait eu cette possibilité de prendre le ministère de l'Instruction publique.
Alors le comte de Falloux lui-même disait « Quand on veut en dire du bien, on l'appelle loi de 1850 et quand on veut en dire du mal, on l'appelle loi Falloux. » Qu'est-ce qu'elle dit précisément cette loi ?
La loi de 1850, elle s'appelle la loi de la liberté de l'enseignement. Donc elle a deux points importants. Elle reconnaît donc deux espèces d'écoles primaires ou secondaires. Les écoles fondées ou entretenues par les communes, les départements ou l'État, elles prennent donc le nom d'école publique. Et les autres, les écoles fondées et entretenues par des particuliers, des associations, souvent catholiques, et qui prennent le nom d'école libre. Donc à partir de ce moment-là, les congrégations, notamment congrégations religieuses, ont beaucoup plus de possibilités d'ouvrir des écoles parce que tout Français âgé de 25 ans au moins peut créer un établissement d'enseignement sur simple présentation de quelques garanties. C'est ce que font les congrégations religieuses. Et un deuxième point, c'est que Falloux oblige donc par cette loi la création d'une école de filles dans toute commune de plus de 800 habitants. C'est de cette époque que datent beaucoup d'écoles communales dans nos villages, les écoles de filles, puisque ce n'était pas le cas avant. Il n'y a pas obligation pour ces villes de fournir des établissements scolaires.
Comment a-t-elle été accueillie et qu'en reste-t-il aujourd'hui ?
La loi Falloux a été très très décriée par les opposants, donc ça a réveillé l'anticléricalisme à l'époque. Notamment Victor Hugo a été totalement opposé à cette loi. Ils se sont battus contre, elle a été votée et elle a été entérinée. Puis la France est allée quand même vers la laïcité, puisqu'il y a eu les lois Ferry, qui elles sont des grandes lois scolaires également, mais qui vont complètement dans le sens opposé. Et enfin, en 1905, on a la loi de séparation des églises et de l'État. Et donc là, on se positionne clairement. On veut vraiment une école publique et puis on veut que la religion soit de côté par rapport à l'État et que ce soit deux choses, deux pouvoirs séparés. Et puis, jusque sous Mitterrand, on a parlé de la loi Falloux. Voilà, il y avait des projets de loi pour l'abroger, etc. Donc aujourd'hui, la loi Falloux, il n'y a plus grand-chose qui en reste. Elle a été beaucoup remaniée.
Après avoir occupé le poste le plus important de sa carrière, Falloux est revenu dans le Segréen. Pourquoi ?
Donc Falloux a passé une partie de son enfance dans le Segréen, puisque les parents Falloux avaient quelques terres au Bourdiret. À l'époque, une famille de la noblesse passait la mauvaise saison à la ville, et puis à la belle saison, ils retournaient dans leurs terres de la campagne. Ensuite, bien sûr, il a passé sa carrière politique à Paris. Il a laissé ses parents en Anjou, et puis il a passé la plupart de son temps à Paris. Et puis, il a commencé à réfléchir à revenir dans le Segréen. Et puis, en fait, ce qui l'a poussé définitivement, c'est qu'en fin de l'année 1851, Louis-Napoléon Bonaparte fait son coup d'État et proclame l'Empire. Donc Falloux s'oppose avec beaucoup de députés à cet Empire. Donc pendant 3 jours, il est emprisonné au Mont-Valérien. De sa cellule, il réfléchit à définitivement quitter la scène politique et rentrer dans sa région natale. Donc c'est ce qu'il fait, et il s'installe définitivement au Bourdiret. Début de l'année 1852, il commence à faire reconstruire son château, et il s'y installe durablement. Et il s'intéresse à l'agriculture. Il fait construire une ferme modèle, une grande ferme vaste puis hygiénique avec les briques. Et il y a de la lumière qui rentre avec des fenêtres qui sont percées dans les murs. On apporte salubrité et puis rendement aussi, puisqu'on fait venir des espèces bovines surtout. Il se constitue une étable très importante avec des animaux qui sont vraiment très beaux et qui remportent beaucoup de prix dans les concours. Et Falou a remporté les primes d'honneur plusieurs fois, et donc c'était vraiment, il était vu comme l'un des grands agriculteurs du 19e en France.
Qu'est devenue la demeure familiale du Bourdiré?
Donc le château, quand Falou s'y installe, il le fait reconstruire d'une façon bien plus importante. Un grand château moderne dessiné par plusieurs architectes, mais en tout cas exécuté par René Audet, le grand architecte du 19e spécialisé dans le néo-gothique et qui construisait au même moment le château de Charles-la-Poterie. Et donc ce château qui est vraiment à l'image du comte, dans son plan et dans son organisation, a été habité pendant 30 ans donc, par le comte. Il est décédé à Angers en 1886, mais il est enterré au Bourdiré. Le château était en très mauvais état en 2016 quand il a été racheté par un couple de particuliers américains. Et eux ont décidé de le restaurer entièrement à l'identique pour lui redonner son cachet initial. Dans les années 50-60, la famille de Blois qui avait hérité de Falou vivait entre le Bourdiré et Paris. Et à Paris, ils étaient très amis avec Mademoiselle Bugatti, qui était la fille du fondateur et constructeur automobile. Et donc, elle a passé effectivement quelques années au château du Bourdiré, où elle était invitée par la famille de Blois. Et elle était même locataire de la partie la plus noble du château. Et elle y est restée une dizaine d'années.
Quel souvenir reste-t-il aujourd'hui dans le Segréen de la vie du comte?
Il était le bienfaiteur du Segréen. Il a créé deux hospices, un au Bourdiré, un à Segré. Il a offert un lavoir public au Bourdiré. Il a construit un pont. Il subventionnait aussi la construction d'églises dans le Segréen. Et puis, il a fait aussi en sorte de jouer un peu de son influence auprès de ses connaissances à Paris pour faire construire une écluse à Segré, pour que la navigation soit plus facile, et puis aussi pour faire venir le chemin de fer. Il a une statue aujourd'hui au Bourdiré, une statue en bronze en son souvenir. Cette statue symbolisait surtout son rôle pour la religion, mais comme elle est au Bourdiré et qu'elle fait face au château du Bourdiré, elle permet de rappeler quand même sa personnalité et puis le rôle qu'il a eu pour l'agriculture, pour l'aspect social et religieux dans ce coin d'Anjou. Et c'est vrai qu'il faut venir visiter le Bourdiré et puis passer devant cette statue qui est très belle.
Merci beaucoup Jean-Luard pour cet échange et surtout pour ce très bel ouvrage sur la vie du comte de Falou dans le Haut-Anjou. C'est vraiment très bien écrit et on est assuré d'apprendre des choses à propos d'un personnage presque oublié de notre bel Anjou. Où peut-on se le procurer?
On peut trouver mon livre à la librairie Richer à Angers. Et puis sinon dans le Segréen, on peut le trouver au centre Leclerc de Segré ou à l'office de tourisme.
Merci d'avoir écouté cette chronique de Clic-Clac-Topette. Pour en apprendre encore plus sur l'histoire angevine, je vous invite à rejoindre la communauté sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, ainsi qu'à réécouter les podcasts sur le site de Radio G. Sinon, je vous dis à 13h, lundi dans deux semaines, sur le 101.5. Topette!
101.5 FM.
Walking in the midnight sun.
Into my eyes. street singer, play a song I knew, and it brought me closer to you. I heard a street singer play a song I call my own. It brought me to my childhood home. Did you go back from where you came? If I get there, will they have my name? If they don't, I'll only have myself to blame for all these things. True happiness is having way. Life is a blurry eye, heavy-hearted whirlwind of a storm. Something they just heard too much to cry. Memories are like shadows, the light won't make disappear. So I still see you smiling with your eyes. So did you go back from where you came? If I get there, will they have my name? If they don't, I'll only have myself to blame for all these things. True happiness is having wings.
Yeah. It is not about the speed, oh, about the greed. They will try to catch you up and take the lead. It explains the way they track you down, hunting, stalking with all their hounds, looking in from above, trying to manipulate all you little tiny dolls that want to emancipate.
Jolie fente, tu remontes doucement la descente, cocaïne et café. copine, tout ce qui finit en une topine. Et il paraît qu'entre vous, c'est l'amour folle, en vente libre, l'extasie en raffole, sérotonine, nicotine et pipine.